Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1. On va prendre une petite demi-heure ensemble pour plonger les regards dans la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours discrètement lever la main, puis il y a quelqu'un de l'équipe d'accueil qui va venir vous porter une Bible ouvert dans Matthieu 1. Peut-être que vous n'êtes pas familier aussi avec la Bible. Alors, si vous avez besoin d'une Bible, simplement levez la main. Il y a déjà des gens qui sont prêts à vous apporter ça. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, je remercie pour ces chants. Tellement clair, Seigneur. J'aurais voulu être là pour entendre les anges, entendre, Seigneur, une chorale céleste, t'adorer, alors que les hommes ne se doutaient pas vraiment de ce qui se tramait. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce, te remercier d'être venu sur cette terre, de t'être incarné ici, Seigneur. Et je veux te remercier de t'être fait connaître à moi, Seigneur, de t'être révélé à moi, à tous ceux ici qui sont chrétiens, d'avoir éveillé dans notre cœur cette curiosité pour chercher plus à la vie, plus de sens que de vivre et mourir, et trouver en toi, Emmanuel, ce repos. Je te prie de bénir ces quelques instants qu'on va prendre dans ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ton esprit soit avec moi, qu'il soit avec chacun d'entre nous, afin que ce texte qui est inspiré par toi, ce texte divin, vienne prendre tout son sens dans notre cœur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a cette année, mais personnellement, j'ai vraiment hâte de célébrer la naissance du Seigneur. Des fois, je suis avec le ministère, j'ai la tête partout. Puis, honnêtement, je vous le partage, j'arrive à Noël, puis je suis comme, il y a tellement de choses à faire. La fin de semaine est énorme. Hein? C'est une grosse fin de semaine. Ceux qui ont été avec nous toute la fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine. Puis, on dirait que d'année en année, j'arrive à Noël, puis j'ai la tête pleine, puis j'ai de la difficulté à me centrer sur la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, cette année, je l'attends impatiemment. Mais je ne sais pas quelle est votre disposition de cœur. Comment est votre cœur? Si vous pensez aux deux prochaines semaines, d'accord, on va tous avoir quelques jours de congé dans les prochaines semaines. Si vous pensez aux deux prochaines semaines, comment vous voyez vos deux prochaines semaines dans votre esprit? Tout de suite, c'est quoi qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est du repos? Un peu de repos bien mérité après une course folle. Certains d'entre vous, c'est ça. Nous, on va partir quelques jours à Rivière-du-Loup. Ça va ralentir. Même si dans la maison Hugo, c'est... Ça va ralentir. Est-ce que c'est du repos? Bien mérité dans une vie de fou où on n'arrête pas de courir. Peut-être que c'est mettre un petit peu de folie dans votre vie. Hein? Métro, boulot, dodo. Non, non, on va aller s'amuser un peu. On va aller rire. Bonne bouffe. On va aller relaxer. Ça va faire du bien de décompresser et de s'amuser un peu. Évidemment, comme chrétien, c'est aussi la naissance du Sauveur. Peut-être que pour certains d'entre vous, les deux prochaines semaines, c'est... On va courir comme des malades. Tu sais, ceux qui sont des solitaires. Là, on est obligé d'aller dans des parties de famille. Il faut aller faire nos courbettes à toute la famille. Saluer tout le monde. Oui, je t'aime, mon oncle. Oui, ma tante. Puis vous avez hâte de retourner dans votre train-train quotidien pour sortir de cette vague-là. Tu sais. Mais d'autres, et je pensais à des personnes cette semaine, dans la prière. Pour d'autres, c'est un moment de tristesse. Parce que ça implique de la solitude, ça implique de l'isolement. Hier, j'étais frappé lorsqu'on jasait avec certaines familles à la Bouffe pour tous, combien d'entre elles sont immigrantes. Ce sont des familles immigrantes qui connaissent personne. Il y avait une dame avec qui je parlais, ils sont quatre. Deux parents, deux enfants, connaissent personne. Personne. Et parlent difficilement le français. Alors pour eux, c'est quoi Noël? Possiblement de la solitude. Pour d'autres, c'est des souvenirs difficiles. des souvenirs douloureux. Ça peut être toutes sortes de choses, Noël. C'est selon, hein? C'est selon notre histoire. Si je vous proposais de voir les deux prochaines semaines comme un moment où vous allez pouvoir entrer dans un repos, dans une paix, qui va s'installer dans votre cœur et qui, au cours des prochaines années, va grandir dans votre cœur. Si je vous proposais de voir les deux prochaines semaines comme un moment où vous allez faire une rencontre et vous allez découvrir une source de paix profonde, de repos. Non seulement arrêter de travailler, mais quelque chose de plus profond que ça, de beaucoup plus profond que ça. Et je ne parle pas d'un coup de baguette magique, je ne parle pas d'une formule où tout est réglé comme ça, mais je parle de quelque chose qui grandit en nous sur des années et des années et des décennies. Je vous parle d'une personne, Emmanuel. Et ce matin, je veux prendre quelques instants avec vous pour voir qui est Emmanuel et qu'est-ce que signifie son nom, Emmanuel. Après tout, on se prépare à aller vers Noël, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la Bible, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouve dans un livre prophétique, d'accord? Dans le livre d'Ésaïe, on trouve dans un livre prophétique, le livre d'Ésaïe, un livre ancien, un livre qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Faites quelques calculs, d'accord? C'est loin, c'est vieux, c'est un vieux livre poussiéreux qui date. Et ce livre-là est un livre prophétique parce que Ésaïe était un prophète du peuple hébreu, quelqu'un qui parlait au nom de Dieu. Et dans une de ses prophéties, Ésaïe annonce quelque chose d'absolument extraordinaire, 700 ans environ avant la naissance de Jésus-Christ. Je vais vous le lire rapidement. Ceux qui sont familiers avec la Bible, vous pouvez tourner bien vite avec moi dans Ésaïe au chapitre 7. Puis après ça, on revient dans Matthieu. Ésaïe 7, on va lire juste un verset, le verset 14. Le livre d'Ésaïe est un livre extraordinaire, et si vous êtes chrétien, vous l'avez déjà lu, complexe, d'accord? Fascinant, mais c'est vrai qu'il est complexe. C'est vrai que c'est, il y a des bouts où tu dis, OK, on est-tu dans la prophétie, on est dans l'immédiat, c'est quoi qui se passe? On voyage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voici ce que le prophète de Dieu dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le prophète annonce que un jour, on ne sait pas quand, d'une manière extraordinaire, surnaturelle, une Vierge va mettre au monde un enfant et on donnera comme nom à cet enfant le nom d'Emmanuel. C'est un beau nom, Emmanuel. Ça sonne bien. Ça doit sonner bien dans toutes les langues, non? C'est beau. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Dieu parmi nous. C'est un terme hébreu. Hein? Il y a « El » dedans pour Elohim, Emmanuel. Dieu parmi nous. D'accord? Dieu qui est avec nous. Dieu qui est avec son peuple. Voilà le sens du mot « Emmanuel ». Et cette prophétie nous dit qu'un jour, un enfant va naître d'une vierge et cet enfant-là, on va l'appeler Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Revenez avec moi dans Matthieu maintenant. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, on va aller à partir du verset 18. Alors, lorsqu'on arrive dans Matthieu, bien, comme je le mentionnais tout à l'heure, on est quelques 700 ans plus tard que la prophétie qu'on vient de regarder rapidement ensemble. D'accord? Ésaïe nous donne cette prophétie-là au 8e siècle avant Jésus-Christ. Matthieu est en train de nous relater la naissance de Jésus-Christ qui se passe à peu près en l'an 0 autour de Jésus-Christ. C'est bon? En gros, ça marche? Alors, on trouve ici le récit de la naissance de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, verset 18 et suivant, je vais vous lire jusqu'au verset 25. Vous pouvez lire à l'avant aussi pour suivre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Quelque chose qui ne marche pas ici. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. C'était une autre époque, hein? Il y avait des principes qui étaient là, il y avait quelque chose de louche ici, et Joseph, par respect, voulait faire ça discrètement. Comme il y pensait, verset 20, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, dans un rêve. » Il y a un ange qui lui apparaît et qui dit « Joseph, fils de David, dans le sens descendant de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » À partir du verset 22, c'est Matthieu qui reprend la narration, puis qui dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Alors Matthieu qui a vécu quelques 700 ans après Ésaïe, voit dans cet événement-là, lorsqu'il raconte ce qui s'est passé, voit dans cet événement l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe que vous avez très bien pu reconnaître, qu'il cite tout de suite après. « Voici, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Matthieu voit à ce moment-là, dans la naissance de Jésus-Christ, l'accomplissement de cette prophétie faite par Ésaïe 700 ans plus tôt. 700 ans plus tôt. Maintenant, si certains d'entre vous sont un petit peu plus réveillés, vous avez pris votre troisième cappuccino ce matin, vous avez déjà des questions dans votre tête. Je parlais de ça à l'instant, puis tout de suite, elle dit, « Ouais, mais attends un peu, là, il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel. Comment il s'appelle? » Bonne question, mon cher Watson. Alors, pour les plus éveillés d'entre vous qui vous posiez la question, l'ange lui dit, « Tu vas l'appeler Jésus. » Il cite une prophétie qui dit, « Non, on va l'appeler Emmanuel. » Puis en fin de compte, on l'appelle Jésus. Comment on va l'appeler? Quand il débarquait de l'autobus après l'école, c'est comment on l'appelait? « Emmanuel, rentre à la maison! » Ou « Jésus, rentre à la maison! » Un petit peu de culture hébraïque. Très rapidement, l'explication est relativement simple lorsqu'on est familier avec les Écritures. Dans la culture hébraïque, on utilisait régulièrement des noms comme des titres qui décrivaient le rôle ou la qualité ou le caractère de la personne. Régulièrement. Et donc, les noms n'étaient pas nécessairement utilisés, mais on savait qu'on aurait pu appeler cette personne-là ainsi. Par exemple, vous auriez pu m'appeler « Fils du tonnerre » si vous me connaissiez comme il faut. Mais si vous connaissiez Jean-Paul Gagné, vous auriez pu l'appeler « Fils de compassion ». D'accord? Ça aurait été plausible, acceptable. On a un exemple dans le texte ici. Si vous retournez au verset 18, on a un exemple très concret ici. Que vous ayez beaucoup de culture biblique ou non, que vous soyez familier avec le christianisme ou non, vous avez toujours entendu parler de Jésus comme Jésus-Christ, non? C'est comme ça qu'on parle de lui en général, Jésus-Christ. C'est ça qui est mentionné ici, verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ » ou « Jésus-Christ », comme vous préférez. Mais c'est pas tout à fait juste de dire ça, parce que son nom, c'est pas pour de vrai Jésus-Christ. Ça serait plus juste de dire « Jésus le Christ ». Christ qui est là, qui est en français, nous vient du grec Christos, qui traduit lui-même un autre mot qu'on a dans l'hébreu, qui représente celui qui a été choisi, loin, celui qui a été loin de Dieu, qui a été choisi. Et donc, lorsqu'on désigne Jésus en disant Jésus-Christ, on est en train de dire, c'est Jésus celui qui a été choisi, celui qui avait été annoncé, mis à part pour Dieu. Et les Juifs comprenaient qu'on était en train de parler du Sauveur qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, son nom, c'est pas vraiment Jésus-Christ, mais en même temps, il est tellement celui qui avait été annoncé que les chrétiens se sont mis à l'appeler Jésus-Christ. Et donc, on a un exemple ici d'un titre qui devient un nom et qui est utilisé ou qui n'est pas utilisé. Alors, c'est un petit peu la même chose avec Emmanuel. Quand Jésus débarquait de l'autobus après l'école puis arrivait à la maison, sa mère ne l'appelait pas « Emmanuel, rentre à la maison ». Elle l'appelait Jésus, c'était son nom usuel. Pourtant, depuis des siècles, lorsque les chrétiens adorent Jésus-Christ, régulièrement, ils vont parler d'Emmanuel. Parce que nous comprenons ce qu'Emmanuel nous révèle sur la personne de Jésus. Nous comprenons le sens d'Emmanuel et ce que cela nous révèle sur sa personne, sur ce qu'il est, sur son caractère. Et voilà pourquoi ce titre-là lui est attaché, ce nom-là lui est attaché. Et vous allez entendre des fois des chrétiens qui sont en train de louer et qui vont dire « Emmanuel, je veux t'adorer ». Parce que nous comprenons son sens, même si son nom d'usage était Jésus, puis après ça, s'est transformé pour ses disciples et est devenu Jésus-Christ. Ça, c'est pour ceux qui étaient déjà à leur 2e, 3e café puis qui avaient cette question-là. Ce que je veux faire avec vous ce matin, quelques minutes encore, d'accord? Ce que je veux faire, je veux m'arrêter simplement sur le nom Emmanuel. Réfléchir un peu à ce que cela représente. Qu'est-ce que ça représentait pour les Juifs? Ce que ça représente pour les chrétiens aussi. Alors, je m'adresse tout autant à ceux qui ne sont pas familiers avec le christianisme et qui essaient de comprendre c'est quoi cette patente-là, qu'à ceux qui le sont, qui sont chrétiens et qui veulent adorer à Noël, qui veulent se préparer la semaine prochaine à avoir un cœur rempli de reconnaissance pour ce qui s'est passé à la naissance de Jésus-Christ. Emmanuel, on l'a mentionné tout à l'heure, ça veut dire « Dieu avec nous ». Et donc, ce que ça représente, c'est que lorsque Jésus est né, Dieu venait au milieu de son peuple. Dieu venait auprès de son peuple. Pour comprendre ça, qu'est-ce que ça représentait pour les Juifs, cette idée que Dieu vienne au milieu de son peuple, je dois retourner encore un petit peu dans l'Ancien Testament, d'accord? Je recule une fois encore en arrière. Dans le récit biblique, dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, il n'y avait pas de plus grande bénédiction, de plus grande grâce, de plus grand bonheur possible que d'être dans la présence de Dieu, d'être en présence de Dieu, d'avoir Dieu à ses côtés, avec soi. Le peuple d'Israël avait appris à connaître l'Éternel à travers des événements assez extraordinaires qui s'étaient passés dans leur histoire. Et il savait que Dieu est puissant. Il connaissait Dieu comme étant un être bon et gracieux. Tu veux l'avoir dans ton équipe. Tu veux être à côté de lui. Tu veux constamment qu'il soit à côté de toi. Et donc, par exemple, dans le récit de l'Ancien Testament, à un certain moment donné, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Ils sont les ouvriers, littéralement des esclaves, des serviteurs des Égyptiens. Et Dieu, c'est un moment extrêmement important dans la fondation d'Israël, la fondation du peuple juif. Dieu va souverainement intervenir dans leur histoire pour les faire sortir d'Égypte, d'accord? Et Dieu va manifester sa présence auprès d'eux, au milieu de son peuple, dans une nuée, afin que le peuple sache toujours que Dieu est avec eux, que Dieu les accompagne. À un certain moment donné, dans la relation avec Dieu, Israël va pécher et Dieu va dire « Je ne peux plus être au milieu de vous. Vous êtes un peuple indigne que je sois présent au milieu de vous. Moi, l'Éternel, le Dieu Saint, je ne peux plus marcher au milieu de vous. » Moïse, qui était à la tête du peuple à cette époque-là, fait une grosse crise à Dieu. Puis il dit « Non, moi je donne ma démission, je te donne mes clés, je débarque. Si tu n'es pas au milieu de nous, on n'avancera pas, on ne bougera pas d'ici. » Je ne conduirai pas le peuple de Dieu un pas plus loin. On a péché, Éternel. Nous avons péché contre toi, ô Dieu. Mais nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin que tu sois là au milieu de nous. Et je ne bougerai pas d'ici. Le peuple ne bougera pas si tu n'es pas avec nous au milieu de nous. Et l'Éternel va faire construire une tente, une maison, le tabernacle. Éventuellement, quand le peuple va avoir un pays, ils vont construire un temple physique solide, qui manifeste devant tout le peuple la présence de Dieu au milieu de son peuple. Bien d'autres choses aussi, mais le tabernacle, c'est ça, c'est Dieu qui est au milieu de son peuple. Parce qu'Israël avait connu la grâce d'avoir Dieu à tes côtés, d'avoir Dieu dans ta vie. Maintenant, je conçois que c'est quelque chose qui peut être un petit peu étrange pour nous. C'est loin de nous, cette idée-là. J'ai-tu besoin de Dieu, d'esprit, et partout? J'ai-tu besoin vraiment qu'il soit comme avec moi, à côté de moi? Je pense qu'on peut saisir ça avec une illustration, d'accord? Imaginez un instant que vous découvrez le grand amour. L'amour total. Tu sais, celle qui bouleverse ta vie, tu commences à devenir un petit peu gaga. Il y a un problème. Il y a un problème, tu as découvert ce grand amour-là pendant que tu faisais un voyage. Ah, il s'avère que celui ou celle qui est probablement l'amour de ta vie habite loin de chez vous. 5-6 heures d'auto, tu sais, habite vraiment pas à côté de chez vous. Ah, tu souffres, tu sais. Il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire actuellement. Tu souffres à l'intérieur de toi, tu sais. Puis là, tu passes ton temps, comme on dit au Québec, à chialer autour de toi, puis à dire « Ah, oh, j'aimerais ça qu'il soit ici, j'aimerais ça qu'il soit ici plus souvent, j'aimerais ça. » Puis les gens autour de toi, tu sais, remplis de compassion, te disent « Non, mais écoute, tu devrais quand même être reconnaissant de vivre en 2011. » Je veux dire, il y a le téléphone, vous pouvez vous parler tous les jours, oublie le téléphone, vous pouvez vous skyper tous les jours, vous pouvez vous regarder sur un écran dans le blanc des yeux tous les jours, tu sais. Est-ce que vraiment vous allez être consolé par ça? C'est une grande consolation. C'est pas la même affaire que de l'avoir juste devant moi. Tu sais, juste à côté de moi, tu sais, puis on fait rien. On regarde la télé ensemble, mais il est là. T'es avec moi. C'est pas pareil. On fait rien. Tu sais, je parle même pas de se coller, de se câliner. Je parle pas de ça, juste là, il est à côté de moi. Ou encore, qui d'entre nous, lorsqu'on a vécu des moments difficiles, on a traversé une passe difficile dans notre vie, une période difficile dans notre vie, et on aurait voulu avoir un ami cher, quelqu'un de confiance, qui aurait pu être là, juste à côté de nous, pour rien faire pour changer la situation d'aucune manière, mais simplement sa présence à côté de nous pour traverser cette période-là. Vous voyez? La présence. La présence de quelqu'un à côté de nous. Alors imaginez un instant que Dieu peut être présent tout près de moi pour être avec moi, constamment. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est parfaitement bon, parfaitement amour, tout puissant, celui qui est juste, celui qui est gracieux, qui est miséricordieux. Imaginez un instant qu'il dit, je vais être avec toi tous les jours. Tous les jours. Il me semble que tu es prêt à affronter toutes les tempêtes de la vie. Par sa simple présence à tes côtés. C'est un peu ça que représente le mot, le nom Emmanuel. Et c'est un peu ça que ça représentait dans l'esprit des Juifs. De voir Dieu qui venait au milieu de son peuple, auprès d'eux. Et donc, en donnant ce titre à Jésus-Christ, Dieu est en train de dire, voici, Dieu vient au milieu de vous. Et ce matin, si j'avais une demi-heure de plus, je ferais un peu ce que Stéphane a fait tout à l'heure dans le cours de 9 à 10, j'irais voir avec vous tous ces textes, toutes ces prophéties qui nous disent que Jésus n'était pas seulement un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, mais qu'il est bel et bien le Fils de Dieu, Dieu le Fils qui vient sur la terre parmi les hommes. Mais on n'aura pas le temps de faire ça ce matin. Vous pourrez peut-être aller écouter la leçon de 9 à 10 ou aller suivre ça sur Internet. Mais voyez-vous, les chrétiens ont saisi à la lumière des prophéties, à la lumière des Écritures, que ce Jésus qui est né est Dieu le Fils parmi les hommes. Maintenant, pour bien comprendre le christianisme, je vais vous parler de deux fêtes. On se prépare pour aller à Noël dans une semaine. Je vais vous parler de deux fêtes. Il y a deux fêtes vraiment, vraiment importantes pour les chrétiens. Si vous pouvez saisir le sens, en gros, de ces deux fêtes-là, vous allez comprendre énormément de choses sur Jésus-Christ. Énormément de choses sur le christianisme. Les deux fêtes, c'est quoi? Noël, Pâques. D'accord? Noël représente l'incarnation. Dieu le Fils qui vient parmi les hommes, qui naît comme un enfant, qui devient homme. Et c'est ça que nous célébrons. Dieu qui vient vers les hommes, qui devient un homme. D'accord? Pâques, qu'est-ce qu'on souligne à Pâques? Sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts. Pâques représente ce moment où Jésus vient accomplir plein de prophéties de l'Ancien Testament, vient accomplir aussi tous ces rituels de sacrifice d'animaux que vous voyez dans l'Ancien Testament. Il vient accomplir le sacrifice parfait en mourant sur cette croix, en ressuscitant. Voici ce que Pâques représente pour nous. Maintenant, pour bien comprendre le christianisme, vous devez résoudre une énigme, d'accord? L'énigme est la suivante. Dieu le Fils vient sur la terre, s'incarne, devient un homme, dans le but de se rendre à Pâques, mourir sur une croix, crucifié. Quelques années plus tard, on s'entend? D'accord? Pas la même année. 30 et quelques années plus tard. Mais Dieu le Fils s'incarne, devient un homme, dans le but express. Alors, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu vient au milieu des hommes dans le but express de se rendre à la croix pour être crucifié. Et suivant les prophéties, ressuscité le troisième jour. Et si vous pouvez comprendre comment ces deux fêtes-là, ces deux moments-là dans l'histoire de Jésus-Christ se réconcilient, vous comprenez le christianisme. Vous saisissez énormément sur le christianisme. Vous devez résoudre cette énigme. Pourquoi Emmanuel, Dieu le Fils, est-il venu sur la terre dans le but de se rendre à la croix et mourir sur une croix? Si Dieu vient au milieu des hommes, pourquoi est-ce que ce serait dans le but d'aller mourir sur une croix? Et si vous pouvez résoudre cette énigme-là, vous saisissez le christianisme. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore saisi à Pâques au printemps, bien, je vous invite à revenir. On va répondre à cette question-là le dimanche de Pâques, c'est bon? Ça va vous donner quelques mois pour lire les Évangiles puis saisir ça peut-être. Mais Pâques, c'est un petit peu loin, alors je vais vous donner quand même un indice ce matin. Tournez avec moi, revenez dans Matthieu, parce qu'on a un bel indice dans le passage de Matthieu lui-même. Au verset 20, je retourne à ce moment où Joseph pensait se séparer de Marie, et il y a un ange qui lui apparaît dans une vision, dans un songe. Verset 20, il dit, voici ce que l'ange dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu est en train de nous donner une piste pour comprendre ce que Jésus est venu accomplir en venant sur la terre. Emmanuel est venu parmi les hommes et il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Voyez-vous, je crois, et c'est ce que les Écritures enseignent, qu'une des plus grandes grâces, sinon la plus grande grâce que Dieu peut accorder à un homme, c'est d'être constamment dans sa présence, constamment auprès de lui. Et Jésus-Christ est venu au monde pour nous offrir la possibilité d'être constamment dans la présence de Dieu, constamment en communion avec Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité pour vous de commencer à entrer dans un repos, dans une paix qui va grandir dans vos cœurs, dans votre cœur, au cours des prochaines années. C'est mon expérience à moi, personnellement. C'est l'expérience de centaines, de milliers, voire de millions de chrétiens sur la terre qui, malgré les difficultés de la vie, malgré le fait que plusieurs d'entre nous, on se prépare à célébrer Noël avec des fois des cœurs tristes parce qu'on a perdu des êtres chers dans cette période-là, toutes sortes de raisons, parce qu'on a perdu notre emploi juste avant les fêtes, toutes sortes d'épreuves de la vie. Malgré cela, des millions de chrétiens sur la terre grandissent d'année en année dans cette paix profonde, dans ce repos profond d'expérimenter la présence de Dieu avec eux. Pour que Dieu vienne dans ma vie, pour que Dieu soit tout près de moi, les Saintes Écritures me disent qu'un pardon doit s'opérer. Pour que la relation se construise, les Saintes Écritures me disent qu'un pardon doit s'opérer. Je dois être sauvé de mes péchés. Et c'est ce que Jésus-Christ accomplit à la Pâque. Jean, dans son évangile, dans l'évangile selon Jean, dit qu'à celui qui croit en Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres mots, de devenir chrétien. En d'autres mots, d'avoir Emmanuel avec lui, en lui. Ça, c'est une autre histoire. De manière permanente et constante. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Je ne peux pas vous souhaiter une plus grande grâce que celle-là. C'est la plus belle bénédiction qui peut vous arriver. J'aimerais ça vous encourager, pendant les fêtes, à vous faire un beau cadeau. Et là, je m'adresse autant aux chrétiens qu'à ceux qui s'interrogent, qui se posent des questions. Faites-vous un beau cadeau. Ouvrez la Bible. Prenez-vous un bon café, un bon petit digestif en fin de soirée, si vous voulez. Ouvrez la Bible. Prenez un évangile. Commencez à lire tranquillement un évangile. Et essayez de saisir cette énigme. Pourquoi Dieu est-il venu parmi nous dans le but de mourir sur une croix? Et quelle est la paix que je peux trouver là qui va bouleverser non seulement mon quotidien, mais toute ma vie et mon éternité? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Je veux te bénir parce que tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Seigneur, non seulement dans les livres d'histoire, mais tu es Emmanuel dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur. Tu es Emmanuel dans mon foyer, dans ma maison. Et Seigneur, tu es Emmanuel pour l'éternité. Je te bénis pour ton amour et vraiment ce renoncement que tu as fait en venant parmi les hommes. Et en lisant les évangiles, je vois combien les hommes ne t'ont pas reçu, ne t'ont pas compris, Seigneur. Et en bout de ligne, t'ont crucifié. Et pourtant, tu venais pour ça, Seigneur. Je t'adore, Seigneur Jésus. Je te bénis. Je te rends grâce pour cette fête qu'on va fêter dans une semaine. Je te rends grâce de m'avoir fait saisir ces choses, Seigneur, en lisant ta parole. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Chrétiens qui ont peut-être oubliés, se sont égarés sur la route et oubliés qu'Emmanuel est avec eux, qu'Emmanuel est auprès d'eux, qu'Emmanuel est là pour eux, pour prendre soin d'eux, pour les conduire dans les voies de Dieu, pour les restaurer, pour les reconstruire, pour les bâtir, pour les bénir en Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Jésus, qui ont entendu ces histoires et pour qui toutes ces choses sont des contes, je te prie de te révéler à eux, Seigneur. Viens te révéler à eux et révèle-leur ce que tu as fait en venant naître, Seigneur, dans cette étable. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.